question qui est une aspect technologique personnelle. Je ne vois pas pourquoi il existerait la foi d'un côté et la raison de l'autre. C'est-à-dire, je puis avoir la foi et douter. Autrement dit, je mets sur la table le doute, le droit au doute, et les raisons du doute.
Oui, c'est pas. D'ailleurs, il y a des grandes figures de la foi qui ont douté aussi.
Oui, oui.
Même, je pense à Saint-Augustin, hein, j'en ai pas été longtemps.
Et Saint-Paul, qui s'est converti.
Ouais.
Et qui faisait des. Ensuite, en Afrique, qui faisait des. Non, c'est pas en Afrique.
Oui, il était évêque d'Hippone. Hein.
Oui. En Grèce, pardon. Et il faisait donc des interventions, j'appelle les interventions, c'était des prêches, si j'ose dire, hein, pour convertir. C'est une grande conversion, ça aussi.
Et puis d'autres.
Puis d'autres. Alors, du côté des miracles, c'est vrai qu'on peut les récuser, enfin, dire que c'était une chose qui pouvait être physique. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé et qui a mis sérieusement ma foi en question. On n'a jamais vu un bras repoussé. Cependant, un bras ou une jambe ou un doigt. Mais la science règle le problème. Elle repousse pas, elle fait pas repousser un doigt, mais presque. Elle peut le greffer, elle peut. Bon, voilà, c'est une chose. Et disons que, parce que tout à l'heure vous en avez parlé, j'ai reçu une éducation religieuse très très forte et qui a été faite par un prêtre qui savait faire passer les choses. Et la deuxième chose, que je crois beaucoup que la foi est reliée à l'émotion, à la sensibilité. Je pense par exemple à la musique, à l'orgue dans les cathédrales, la beauté des cathédrales. En ce moment, on a un exemple de ce remue-ménage de gens qui ne croient pas. Vous parliez aussi de la charité. C'est sur un autre. Vous parliez aussi de la vraie charité. On en a parlé au niveau politique aussi cette semaine. C'était très intéressant à suivre. Il y a des grandes fortunes qui ont fait des dons extraordinaires. Il y en a un qui a dit: je ne demande pas une réduction d'impôts.
Oui.
Et il y en a deux autres qui n'ont rien dit. Sachant qu'il y en a un qui a quand même dit, pardon, 95% de réduction d'impôts. Voilà, oui. Bon, on pourrait encore. Donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, il y a une force. Il y a une force personnelle, je pense, à votre dernière citation concernant cette dame. Je crois que, en soi, il n'y a pas que l'éducation et la stabilité. Il y a quelque chose qui fait que on peut pas arriver à ne pas croire et on peut pas arriver à croire complètement, et c'est le doute.
Oui. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on est dans une période. Mais c'est bien d'avoir mis la question du doute parce que douter, c'est aussi une liberté. Mais le. Moi, ce que je constate en tant que philosophe cette fois, c'est qu'il n'a jamais été autant difficile qu'aujourd'hui de parler de la foi, de ces questions-là. Le thème, ne serait-ce que d'aborder. Hein. Vous voyez, il y a quelques temps de ça, il y a eu une dame dont on a dit qu'elle avait été une des dernières miraculées de Lourdes. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Voilà. Et il y a eu un papier. De Raphaël Enthoven, qui est un philosophe qui passe parfois à la télé le soir, il fait une émission, qui a écrit, mais alors, j'avais noté d'ailleurs hein, ce qu'il avait écrit, au Vitriol, hein, un article. Je voulais vous le lire pour vous montrer à quel point ça reste des sujets extrêmement porteurs d'émotions et même de polémiques. Hein, mais est-ce que je vais retrouver ? En fait, il était furieux contre les journaux qui avaient relayé la nouvelle de ce miracle. Parce que d'abord, il disait que c'était pas un miracle, que la science allait finir par l'expliquer. Mais surtout, il disait que, en parlant, en relayant ce type d'information, la presse faisait la complice d'un retour à l'obscurantisme, d'un retour aux heures les plus sombres du Moyen-Âge. Enfin. Donc, il avait produit un papier au Vitriol, quoi. Il s'était vraiment offusqué, quoi. Est-ce que j'y retrouve cette. Non, ben, je vais peut-être pas la retrouver, elle est quelque part. Mais... Ben voilà, il avait été extrêmement virulent, et sa déclaration, ah ben voilà, tiens, je la retrouve, voilà, c'est le 13 février 2018, donc Raphaël Enthoven, hein, philosophe bien connu, en parlant de miracles, on augmente l'obscurité, on répand les ténèbres, et on fait basculer les religions dans la superstition. Donc voilà, tout ça c'était pas pour protester contre... Madame Guérin, considérée comme la 70e miraculée de Lourdes. Alors ça fait écho à ce texte qui a fait très polémique quand il était sorti, le traité d'athéologie de Michel Onfray. Vous en avez parlé. Comment peut-on croire ces fables? Bon.
Qu'est-ce qu'on peut dire des miracles collectifs?
Des miracles collectifs? Vous pensez à quoi? Fatima?
Oui, voilà.
Ben, du point de vue de la raison, on ne peut rien dire. Hein. Et je connais des gens qui pensent que c'est des ovnis, mais du point de vue de la raison, on ne peut rien dire. Il y a des personnes qui considèrent que c'est une soucoupe volante, le soleil qui danse. Là. C'est autre chose. Hein. Oui.
La foi est-elle étayée par le miracle? Est-ce que le miracle... Je pose une question. Moi, j'ai ma réponse, mais n'est pas. Est-ce que le miracle est nécessaire à la justesse d'une foi? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de la justesse de la foi? Pascal dit bien que la foi, c'est la logique du cœur. Ça ne veut pas dire de la sensibilité, du pleur ou du gémissement. Non, le cœur, il a bien dit d'ailleurs, la finesse, l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Bon, mais je sais pas, il me semble que ça suffit pour expliquer que la foi réponde à de telles résonances, à de tels sentiments. Voilà.
Le miracle de l'esprit, la foi n'a pas besoin de miracle, bien sûr. Mais moi, oui, allez-y, je vous en prie.
On peut avoir du cœur sans avoir la foi.
Oui,
absolument.
Oui, absolument.
Très juste.
Oui, vous avez tout à fait raison.
C'est ce qu'on appelle les saints laïcs.
Mais oui, absolument.
Les saints laïcs.
Les saints laïcs, oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas. Ah, au son, c'est pas évident. Hein, pour,
Mais je sais pas où, de quel côté.
Ah, vous dites.
J'ai jamais manœuvré ce truc-là.
On parle de la foi, mais on n'a pas fait la différence entre les institutions religieuses et l'esprit de charité. Ouais.
Alors, moi, je voulais en parler. Et là encore, puisque c'est une conférence de philosophie, hein, je vais m'appuyer sur un texte très célèbre, un très très beau texte de Henri Bergson, qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion ». Si vous avez l'occasion, je vous en... En plus, il est assez facile à lire. Enfin, c'est pas un texte d'une rédaction très compliquée, hein, pas compliqué d'ailleurs. Hein. Les deux sources de la morale et de la religion, un texte qui a été écrit au début du XXe siècle. Et Bergson s'interroge en philosophe, hein, sur ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand une religion apparaît? Il dit que au départ, il y a cette source créatrice d'une religion, mais ensuite il y a une seconde étape, c'est pour ça qu'il parle de deux sources, c'est le moment où la religion devient une institution, merci, où là les choses se sclérosent, où là, les choses se hiérarchisent, en tout cas, dans le catholicisme, vous avez vu combien cette notion d'organisation hiérarchique avait pu poser problème, en particulier du côté des réformés, hein. Cette idée d'une hiérarchie, d'un ordre extrêmement précis, rigoureux, qui fait perdre, qui peut faire perdre à la spontanéité créatrice d'une religion, son esprit le plus vivant, quoi. Hein. Donc lui, il montre que lorsqu'une religion se transforme en institution, elle se fige. Et ce qui fait son esprit vivant a tendance à se perdre. Parce que il y a dans, le christianisme, c'en est l'exemple le plus manifeste, il y a quelque chose de subversif. Dans le message chrétien, il y a un plus subversif. Ça renverse toutes les valeurs habituelles. Moi, je pense à un des passages les plus subversifs que je connaisse. C'est un texte de saint Paul, de ses épîtres, je ne sais plus laquelle, mais où il écrit en Jésus-Christ, il n'y a plus ni femme ni homme, il n'y a plus ni maître ni esclave, il n'y a plus ni autochtone ni étranger. On est tous un. Vous vous rendez compte d'écrire ça au premier siècle de notre ère, enfin. Il n'y a pas un texte plus subversif que ça, quoi. Et c'est ce côté subversif, révolutionnaire, au sens de ce qui révolutionne le monde, hein, qu'on perd avec les institutions, avec une organisation. Alors moi, je sais que l'Église catholique se présente comme le corps mystique du Christ. Corps mystique. Mais il faut voir que et moi, c'est ça qui m'interroge en tant que philosophe, hein. C'est qu'en fait, l'Église, elle n'aime pas tout ce qui vient faire bouger son dogme. C'est pour ça que les apparitions mariales n'ont pas très bonne presse, hein. Vous étiez au courant? Quand un message surnaturel est censé faire Lourdes, les miracles de Lourdes, les visions de Bernadette, hein, où je pense aussi à cette apparition mariale de la Salette, qui plaisait pas du tout à l'Église, hein. Ils avaient même envoyé le curé d'Ars interroger les deux enfants. Vous connaissez l'apparition de la Salette, très connue, hein. Le curé d'Ars pensait que il racontait peut-être n'importe quoi. Tous ces faits surnaturels, ça ne plaît pas, parce que l'institution, elle a besoin de pérennité, et qu'on ne change pas un iota à son ordre. Mais quand vous avez comme ça des faits présentés ou prétendument surnaturels, le seul cas que je connaisse où l'Église a bougé un peu, si on peut dire, enfin bougé, a mis... et d'ailleurs, ça avait posé problème. Alors, je pense pas à Vatican II, mais je pense au XIXe siècle, quand la Vierge Marie fut qualifiée d'Immaculée Conception. On rajoutait quelque chose au dogme, là. Je parle chez les catholiques, hein. Mais en règle générale, l'institution, elle fige. Et c'est ce que pointe du doigt Bergson en disant que finalement, lui, il parle de mouvement rétrograde. L'origine de la religion, par exemple, l'origine du christianisme, c'est une incroyable révolution intérieure. Donc quelque chose de radicalement nouveau. Mais qui va susciter son contraire. Une institution lourde, pesante, qui voudra surtout être dans un immobilisme qu'on appelle la tradition. Le traditionnalisme religieux, c'est-à-dire ne pas changer un iota, une virgule, à l'élan originaire. Bon, on connaît ça dans d'autres religions aussi, hein. Je pense à l'islam, hein, où vous avez des traditionnalistes qui veulent vivre comme vivait Mahomet. Ils veulent interdire la musique, ils veulent... Bon, ça, c'est les extrémistes, hein. Le seul loisir, c'est de tirer à l'arc, parce que Mahomet tirait à l'arc. Mais bon, vous voyez, cette idée que on change pas. Et dans ce texte, Bergson montre que, finalement, l'institution, c'est peut-être ce qui fait le plus de mal à une religion. Voilà. Oui.
Oui. Pour aller dans tout à fait le bon sens, je pense qu'il faut... Il faut dissocier l'Église et la religion. D'ailleurs, pour citer un exemple actuel, on parle beaucoup de ce qui se passe avec les trains par rapport aux jeunes, etc. On est en train d'apercevoir de très loin quelque chose de venir, que personnellement, je pense que c'est salutaire, c'est le mariage des prêtres.
Ah oui, il y avait un débat là, il y a deux jours, là, j'ai vu ça. Oui.
La nature, c'est la nature. C'est pas Dieu, c'est...
Ah oui.
C'est tout, oui. En fait, il est constitué physiquement.
Oui.
Il a des hormones, etc.
C'est un être humain.
C'est un être humain.
Donc, et la chair est faible. Je confirme. Alors oui, oui. Attendez, je vous en prie, oui. Oui, absolument.
L'Église a quand même soutenu les causes, c'est ça. Ouais. Il faut quand même un peu contester. Hein,
voilà.
Au moins.
Alors, oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'une religion peut perdurer sans s'institutionnaliser? C'est la question. Qu'est-ce que c'est qu'une religion qui n'a pas d'institution pour la pérenniser en même temps?
C'est qu'il n'y a pas de pouvoir. Elle est institutionnalisée pour exercer un pouvoir, c'est tout. Et parce qu'il y a des. Voilà, les institutions
oui.
veulent avoir du pouvoir, comme l'administration veut avoir un pouvoir sur la société. Et finalement, sur tout ça, est-ce que ça ne serait pas mieux?
Voilà, et moi, ça, la question que vous évoquez, là, ça m'a orienté vers. Bon, moi, j'ai essayé de travailler un petit peu ces derniers temps sur la fracture qu'il y a eu au moment de la réforme. Avec l'apparition du protestantisme, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus hein, pour essayer de comprendre où se situe exactement la fracture, parce qu'on la réduit souvent à l'affaire des indulgences. En fait, c'est plus profond que ça. Hein. Vous savez, les indulgences du pape là, qui avaient opposé les 95 thèses de Luther. Il y a cette idée, en tout cas, moi c'est ce que j'ai lu. Hein, après, je vous renvoie aux historiens de la question, mais il y avait une volonté apparemment de la part des premiers réformateurs hein, de rattacher davantage la religion dans la sphère de la relation intime au divin et non pas à une hiérarchie ecclésiastique en plus qui était pointée du doigt pour ses turpitudes hein, parce qu'à l'époque les papes ils avaient des comportements notamment à l'époque des Médicis donc il y a cette idée de réintérioriser la relation au divin dans un culte où il y a quand même culte. Il y a bien un culte protestant, mais sans passer par toute la hiérarchie de l'Église catholique. Donc il me semble que ça, c'est une réponse qui a été amenée. Hein. Alors le problème, c'est que cette réponse-là, elle a généré les plus effroyables conflits des histoires des religions qu'on ait pu connaître. Enfin, la raison, vous voyez, la raison, après, c'est facile pour elle. Hein. Elle dit, voilà, la foi qui commande l'amour du prochain, elle aboutit à ces massacres sur des siècles. On va tuer l'autre pour imposer sa vision de l'amour du prochain. Là, c'est même plus irrationnel, c'est déraisonnable, là, cette fois.
Oui. Il y a aussi mettre en question la communion. Et mettre en question aussi la conception.
Oui.
Comment avoir un enfant en étant.
Oui, ce qui sont quand même des points doctrinaux assez importants, quoi. Donc voilà. Donc je citais Bergson, mais c'est vrai que. Bon. Pourquoi je vous disais que c'est difficile d'aborder la question de la foi aujourd'hui en tant que philosophe hein, eh bien, c'est parce que moi, c'est le diagnostic que je fais, mais je suis pas le seul. Hein, c'est parce qu'on est on est dans une époque où la foi est morte, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ou en tout cas, enfin, je sais pas. Moi, je vois
en tout d'ailleurs.
Hein, oui, pas comme Dieu. Hein. C'est-à-dire, vous parlez de moi, si je parle de la foi à mes collègues, j'exagère à peine, quoi. Hein. C'est, de toute façon, les prêtres, c'est tous des pédophiles. Les catholiques, c'est le mariage pour anti-gay. C'est contre le mariage de gay. Alors, est-ce que les prêtres, c'est la foi? Voilà.
Mais même du temps des Égyptiens, c'est toujours devenu
la foi. Alors, oui, je vous en prie. J'exagère peut-être un peu.
Mais la pratique, la rigueur des rites, certainement a disparu. Voilà. Mais je pense que beaucoup de personnes mettent en parallèle et même en milieu le fait qu'un homme juste pourrait être chrétien, qu'un chrétien est automatiquement un homme juste. Voyez-vous, donc cette ressemblance, cette rencontre de comportement fait qu'il reste au fond de l'individu, je crois, un fond de croyance assez fort.
Oui.
Donc il est peut-être aussi plus cérébral que du cœur.
Plus cérébral que du cœur, vous diriez. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que l'image de l'Église est particulièrement écornée, quoi? Je ne sais pas, moi je pose la question. De l'institution.
La foi, c'est une chose.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vous en prie.
Moi, je vais vous intéresser dans l'explication de la vocation de Sœur Emmanuel, que j'ignorais, là, avec les trois ordres. Et je pense que, enfin, c'est ce troisième ordre, l'ordre de la charité, dont on est bien loin, et sur lequel on pourrait travailler, justement, pour notre société.
Autrement dit, l'ordre du don,
c'est ça. Que l'individu est mettre au centre l'autre. Un peu croissant. Voilà, c'est mon impression
alors,
sur la vie.
Et qu'est-ce que vous diriez alors aux personnes qui vous disent qu'il n'y a jamais eu autant d'associations caritatives aujourd'hui? Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour l'autre. Bergerac est d'ailleurs bien pourvu, hein,
c'est niveau-là.
C'est pas la charité forcément.
C'est pas forcément les associations. C'est justement le fait de. Oui, le fait de penser à l'autre, c'est-à-dire de ne pas être là mais dans un individu. Ce côté très individualiste dans une société qui abîme
cette oui. relation. Alors, oui, allez-y.
Je pense que ce n'est pas une question seulement de charité, ça doit exister. Je pense que c'est une question que des personnes comme vous qui êtes passionnées parce que vous faites par la philosophie, par les arts, elles ont envie de transmettre. C'est un besoin. Alors ça ne veut pas dire pour ça que, on va dire qu'elles sont égoïstes ou égocentristes et qu'elles veulent. C'est le moi d'abord. Non, moi je pense que c'est d'abord ça. Mais vous, vous êtes bien placé pour le répondre.
Oui, je suis gêné là. Oui, bon, la question est de savoir si on est dans une société qui arrive à dépasser l'individualisme. Moi, je trouve que c'est trop facile de dire on est tous des individualistes. C'est pas vrai, il y a aussi des gens qui font plein de choses. Je crois que c'est plus nuancé que ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un déclin des religions en général. Je parle en France et en Occident en particulier. Il y a une image catastrophique de l'institution de l'Église catholique en particulier. Ça, c'est catastrophique. Et je pense qu'il y a aussi une perte de la foi. Moi, je ne peux pas parler de religion à mes élèves. Je vous donne un exemple, hein, mais ça parle, c'est le vécu. Hein. Quand je fais sur le cours sur l'histoire, hein, je commence par leur dire, ben là, il y a quelques années, il y a un test qui a été fait avec des historiens pour leur demander quels sont les trois plus grands événements de l'histoire de l'humanité, pour qu'ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'on met derrière un événement historique, qu'est-ce qui valorise un événement comme historique. Alors le classement a été fait en trois, les historiens ont mis la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme. En deux, la découverte de l'Amérique, 1492, et en un, naissance du Christ. Et quand je mets naissance du Christ, oh là là, 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 là. Un tollé. Je dis, qu'est-ce que vous avez là? Ils comprennent pas, ils sont. Je leur dis, mais ça c'est la vision occidentale, parce qu'en fait l'histoire c'est une science subjective. Je veux dire, on aurait fait ce classement en Chine, on n'aurait pas eu ça. Dans un pays arabe, on n'aurait pas eu ça. C'est parce que l'histoire inclut la subjectivité d'un peuple, justement. Mais alors, on peut pas, voilà. Et ça, moi, ça m'interroge, quoi, parce que...
Parce que c'est la tolérance qui est en jeu.
Mais oui.
C'est ça qui est...
Ah oui, c'est ça. Bon, bah...
Et c'est quoi l'argumentation des jeunes? Parce que là, c'est quand même une histoire, hein.
Ils veulent pas entendre parler de religion. Ils veulent parce que ils réduisent ça.
La naissance du Christ en tant qu'homme individu.
Oui, voilà.
Et Jean-Paul Joseph a parlé de lui en tant qu'homme.
Mais oui.
Donc,
non, mais ça, je peux même pas le développer avec eux, ça. C'est scandaleux. Pourquoi on n'a pas mis
leur référence un peu effective. Qu'est-ce qu'ils ont comme référence justement pour pas s'élever contre ça?
Ils n'en ont pas.
Voilà, enfin, je veux dire, moi, je ne sais pas. Hein,
Non.
Qu'est-ce qu'ils décident, eux, sur les trois choses les plus importantes?
En général, ils me disent comme réponse, ils me donnent comme réponse... qu'est-ce qu'ils ont? Alors, Non, il y en a qui me disent l'homme a marché sur la lune, la
du portable, non?
Mais en général, il me donne des réponses liées à l'histoire des techniques et des sciences. L'homme a marché sur la Lune, Hiroshima, il me dit souvent, le droit de vote des femmes, on m'a dit une fois.
Mais il faut être qui ?
Ah oui.
Après, bien sûr, on peut aller à la recherche, mais ça, c'est complètement différent de ce que nous, on a... Enfin, bon, moi, je parle de... Parce que 60, voilà, après, tout ça, ça a tellement évolué. On a tellement élagué aussi dans les connaissances qui étaient à peine abordées, déjà, pourtant. Alors maintenant, je ne sais pas, mais je pense que...
Oui, oui, absolument.
C'est tout pareil, donc les références, elles vont changer.
Moi, ce qui me surprend, oui. Ce qui me surprend, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas entendre parler de la religion. Et de notre côté, on s'aperçoit qu'il y a une montée de l'islamisme, enfin l'islamisme, de la notion de l'islam chez les jeunes, des gamines qui vont se mettre un foulard sur les cheveux par provocation, je vous l'accorde, plus que par vocation. Mais enfin, et là, je m'interroge de savoir si le mot religion est le mot juste. En fait, ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est la naissance du Christ. Mais d'autres religions, peut-être,
oui.
Vont davantage. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est vrai.
C'est une culture, là.
Et là, ça devient compliqué. Ça devient très, très compliqué. Parce qu'il y aurait peut-être des pensées religieuses qui domineraient, qui auraient tendance à dominer.
C'est-à-dire occuper la place vide, quoi. Comme on appelle. Ah oui, c'est le problème de l'Occident. Alors, je vais donner la parole. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Allez.
Dans votre exposé, vous décrivez la foi comme contrainte au domaine chrétien, dans le don. Il y a aussi tout ce que décrit Moss, le don, le contre-don,
ouais.
et qui me semble être une loi un petit peu plus universelle.
Ah oui, ben moi j'ai, bon, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai, puisque je m'appuyais sur Pascal, hein, donc j'ai pris ça comme. Mais c'est vrai, vous avez raison. Alors, vous voulez que je parle un peu de Mauss alors ? Parce que c'est Marcel Mauss, donc c'est un ethnologue, hein, qui est une figure importante au XXe siècle, qui s'est interrogé sur cette notion de don dans un cadre, on peut dire laïque, hein, puisque il se réfère pas. À la manière dont quelqu'un comme Pascal aurait pu, par exemple, thématiser cette notion de don. Et en fait, la réflexion de Mauss, elle casse un peu les a priori ou les discours habituels tenus sur le don comme offrande de soi, enfin, à travers son action. En fait, le don, dans de nombreuses sociétés, implique un contre-don. C'est-à-dire, en fait, que ce qu'on appelle souvent le don n'est que le nom d'un échange déguisé.
Mais pour l'ordre de la charité, est-ce que c'est pas pareil ? Est-ce qu'on ne reçoit pas aussi ?
Ah ben voilà. Ouais, c'est l'exemple que je prends. Encore une fois, je m'excuse de revenir à mes expériences de prof, mais quand j'essaie d'expliquer aux élèves qu'est-ce que c'est que le don, moi je prends toujours cet exemple. Bon, vous avez tous vu les émissions du Téléthon. C'est très bien le Téléthon, hein, ça permet à la recherche d'avoir de l'argent pour lutter contre la mieux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, je me souviens d'émissions où on montrait le panneau. Alors, la société, je prends un exemple. Hein, la société des pâtes tanzaniennes a versé 20 000 euros. On montrait bien le panneau, là, comme ça. Sachant que le prix d'un spot publicitaire à la même heure, pour la même durée, est 10 fois plus cher, quoi. Mais dites, là, c'est peut-être pas aussi désintéressé que ça, quoi.
Sans aller jusqu'à autant de...
Oui.
Sans aller sur quelque chose d'aussi concret, la satisfaction de donner n'est-elle pas une récompense que l'on se donne en donnant ?
Alors, là, je me réfère au cadre kantien. L'intérêt doit être un intérêt sensible, c'est-à-dire un bénéfice sensible. Une satisfaction, c'est pas un bénéfice matériel. C'est un sentiment. Mais ça fait plaisir. On peut pas dire que ce soit, parce que alors sinon ça voudrait dire que il faudrait accomplir des actes de charité avec une froideur extrême et avec une non le je peux accomplir un acte de charité en éprouver de la satisfaction sans que ce soit pour autant intéressé. C'est intéressé si ça m'amène un avantage. Voilà. Parce que si, s'il fallait donner en même temps, se sentir coupable, après non, pas exagérer. Voilà. Non, donc il faut distinguer entre l'intérêt sensible, matériel, et une satisfaction qui, si elle ne devient pas tapageuse, quoi, hein, tout à fait acceptable. Quoi. Alors qui dit pas. Voilà.
Il faut se référer à la Rochefoucauld.
Voilà.
Il disait l'intrus se perd dans les fleuves comme les fleuves se perdent dans la mer.
Ah oui, les fameuses maximes. Et ce cher moi est partout, moi. Bon, moi voilà, donc je tenais à vous dire que moi ce qui me frappe, hein, c'est que lorsqu'on lit les textes des pères de l'Église, par exemple, lorsqu'on lit des textes de personnes qui sont dans le discours surnaturel, hein, je pense, alors des textes radicaux parce que ce sont des textes mystiques aussi, hein, ceux de Saint-Thérèse d'Avila. On est dans un ordre de discours qui n'est plus le discours de la logique, qui n'est plus le discours du concept, qui est poétique. Le dialogue avec l'ange, moi j'avais jamais lu des textes comme ça en fait. Hein. Ce sont des textes denses, avec des images d'une force. Il y a par exemple des passages, mais il faudrait que vous puissiez les avoir sous les yeux ces passages, hein, où l'ange parle de l'ivresse de l'infini. À propos de cette relation intime à Dieu, j'ai jamais lu des textes comme ça, quoi. Enfin, ça parle au cœur, vous voyez. Et cette ivresse, en plus reliée au vin. Pour moi, le vin, ça évoque pas toujours la fête, hein. Mais là, le vin, l'ivresse de l'infini, ou alors aussi cette idée d'être attentif à l'instant présent. Je peux pas, comment dirais-je. Résumer ces textes parce qu'ils ont une parole qui est tellement forte que soit on la reçoit, soit on la reçoit pas. Si on la reçoit pas, c'est pas grave. Mais si on la reçoit, ça résonne, quoi. Voilà. Et là aussi, il y a des textes magnifiques sur le don dans le dialogue avec l'ange qui sont des textes qui parlent au cœur, quoi. Et je crois que là s'arrête le discours de la philosophie parce que à partir du moment où on voudrait conceptualiser ces textes. Ils perdent leur essence, ils perdent leur force. C'est comme expliquer avec des concepts une image poétique. Si vous commencez à l'expliquer avec des concepts, l'image poétique, elle disparaît, quoi. Là, on est face à un ensemble de textes, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qui ont une force certaine. Comment, pardon ? Oui, ah bah tiens, j'avais une citation de Simone Veil. Ah bah merci alors. Hein. Alors voilà, Simone Veil. Qui est arrivé à un niveau de spiritualité, c'est incroyable. Il y a une phrase que j'avais notée d'elle que je voulais signaler au titre de ce type de discours-là. Hein. Voilà ce qu'écrit Simone Veil dans La pesanteur et la grâce, hein, bien sûr. Descente, condition de la montée. Descente, condition de la montée. Le ciel descendant sur terre soulève la terre au ciel. Levier. Abaisser quand on veut élever. C'est de la même manière que celui qui s'abaisse sera élevé. Et elle termine en écrivant, il y a aussi une nécessité et des lois dans le domaine de la grâce. J'ai jamais rien lu d'aussi, juste sur l'humilité. Voilà. Et là, vous avez vu, c'est pas un discours rationnel, quoi. C'est dans la pesanteur et la grâce. Oui.
Le dialogue avec l'ange dont vous parliez tout à l'heure me fait penser à ces expériences de, comment vous qualifiez ça, de mort imminente et puis les gens reviennent et expliquent ce qu'ils ont vécu. Il y a quelque
très
chose
juste.
Qui heurte l'entendement quand même. Parce que,
ah oui.
Bon, on n'y croit pas, mais enfin, concilier, pour revenir au titre du cours, concilier la foi et la raison. Ça me paraît un chantier énorme et difficile.
Et d'ailleurs, si on dit qu'on veut concilier, jusqu'à quel point cette conciliation n'est pas un mot qui masque en fait une annexion d'un domaine
Exactement.
Sur l'autre. Ben, c'est ce que j'essaie de montrer aussi. Hein.
Voilà, tout à fait. Parce que si on essaie de définir la foi ou la raison, dans la notion de foi, il y a, comment dire, l'engagement d'un individu au service d'un idéal auquel il croit. D'accord ? Donc, alors que dans la raison, c'est, c'est une sorte de faculté de discerner le vrai du faux, c'est-à-dire une plus grande peut-être liberté de décider et de réfléchir à quelque chose que dans le premier cas. Dans le premier cas, il y a toujours une sorte de tutelle qui fait que il y a toujours une espèce d'engagement au service. Et vous parliez de Galilée et du procès de Galilée qui est pour moi le symbole de la relation conflictuelle entre la raison et la croyance, en fait. Et puis les auteurs, en fait, c'était Galilée et puis le Saint-Office. Voilà. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que la foi ne prive pas quelqu'un, je vais faire hurler, ne prive pas quelqu'un de la liberté de penser ou d'agir?
On en revient à la question du doute aussi.
Je dirais que tout à l'heure, vous parliez des élèves qui ne veulent pas entendre parler de religion. C'est peut-être au nom de la liberté, de liberté absolue. Ni Dieu ni maître.
Ah, c'est les anarchistes,
ça. Je n'irai pas jusque-là.
Alors,
non, mais je ne vais pas jusque-là. Voilà. Mais je veux dire.
Je vais faire quelque chose de pas bien. Je vais répondre par une
lettre. Ça nous donne des directives. Donc, on n'en veut pas.
Alors, moi. Ah non, je vous en prie, finissez. Non, la question. Ah non, allez-y, je vous en prie.
Pourquoi ? Parce qu'on a toujours. C'est notre formation, sans doute. Mais on a toujours envie d'apporter la preuve de quelque chose. Voilà. Et comment dire, on associe l'intelligence à la façon de réfléchir, à la façon d'approfondir les choses, d'expliquer ce qui se passe et de ne pas accepter quelque chose d'obscur. Voilà.
Notre intelligence est quand même limitée.
Oui, aussi.
Donc c'est très complexe. C'est où la liberté, là ?
Alors moi j'ai envie d'illustrer un peu vos interventions, je vous remercie, c'est très intéressant, par des citations, deux hein, en fait. Hein. Alors, la pensée anarchiste, ni Dieu ni maître, hein, c'était la phrase emblématique. Hein. Alors,
c'est un peu ça.
Elle a marqué d'ailleurs le Elle a été un des grands mouvements qui s'est opposé à toute autorité. On trouve après ça aussi chez Sartre. Hein. Nous sommes libres maintenant. Hein. L'homme libre, on n'a plus de maître, quoi. Hein. C'est l'existentialisme sartrien aussi. Hein. Moi, alors par boutade, et c'est pas bien de faire ça, hein, je dis souvent à mes élèves, chez les anarchistes, enfin moi j'en ai connu, hein, il y a marqué là, oui. Sur le bras gauche, ni Dieu ni maître, et sur le bras droit, maman. Non, mais c'est une boutade. C'est une boutade. Comment ?
C'est très freudien.
C'est très freudien. Et c'est pas bien de ma part. Oui.
Pascal, en fait, dans ses pensées, il a bien dit, si je ne m'abuse, que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas.
Et c'est tout à fait cohérent avec la distinction des trois ordres. Puisque, bon, vous avez vu, j'ai pris comme fil conducteur Pascal, hein, en particulier pour les raisons que j'ai indiquées. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai lu sa biographie, c'est. C'est cet épisode célèbre hein, où il est peu avant sa mort, où il est atteint d'une crise mystique. Vous savez qu'il avait avec lui toujours un papier qu'il tenait. Vous savez ce qu'il avait marqué sur ce papier ?
Maman.
Bravo. Non. Suite à cette une crise qu'il avait eue mystique en fait, il y avait trois mots P A X, hein, P et joie. Et joie, voilà. Et il est mort avec ces trois lettres, enfin ces trois mots plutôt. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a vraiment chez Pascal, les trois ordres seront présentés dans sa carrière, si je puis dire. C'est un grand scientifique, ce fut un grand scientifique, ordre de l'esprit, un grand philosophe. Et puis, c'était un homme de foi aussi, hein, parce qu'il a écrit aussi sur la foi. Enfin, par conséquent, on a science et philosophie et religion, ou spiritualité et religieuse, qui sont réunies chez lui. C'est un des rares cas, hein. Le seul cas auquel on pourrait peut-être, hein, faire, avec lequel on pourrait faire un rapprochement, c'est Théard de Chardin. Voilà. Parce que Théard de Chardin, alors lui, pour le coup, lui, il a vraiment essayé, avec quel courage, de réconcilier ou de concilier le darwinisme avec la foi chrétienne, et croyez-moi, ce n'est pas facile. Hein. Et, alors là, je ne pourrais pas le développer parce qu'il faudrait une autre séance. Hein. Mais par exemple, chez Théard de Chardin, il y a cette idée qu'il faut bien distinguer entre l'hominisation, c'est-à-dire l'évolution vers l'homme à partir des ancêtres hominidés, l'hominisation, donc là qui s'inscrit dans le mécanisme de la nature, et ce qu'il appelle l'humanisation, dont le point oméga est l'état final auquel l'homme doit pouvoir parvenir, hein, qui est le point oméga, c'est la nature christique en fait. Hein. L'humanisation, c'est l'évolution vers cet état que représente la nature du Christ. Donc hominisation, humanisation, et lui aussi dit qu'il faut bien séparer la description mécanique et la description en termes d'évolution spirituelle. Mais ça, c'était Théard de Chardin. C'est un auteur qui est trop méconnu à mon avis, et qui gagnerait à être plus connu. Quoi.
Et d'ailleurs, quand vous parlez de phénomène humain, il dit qu'il faut étudier seulement le phénomène, mais tout le phénomène.
Absolument.
Vous allez avec Oméga et l'interaction qu'exerce. C'est-à-dire que vous avez parlé dans votre précédente conférence d'une interaction que la. Oui, que Dieu exerce sur la propos de la.
L'alimentation, oui.
Oui, plus
que ça.
Et également, il dit que on ne peut être attiré que si cette personne a parlé, et c'est le phénomène de la révélation. Donc, on retrouve dans ce que vous nous avez dit, ce que vous nous avez dit sur Théard de Chardin, si un jour on nous parlait de lui.
Ah ben avec plaisir, mais ce sera pour l'an prochain alors. Parce que là je vais donc vous donner rendez-vous le 22 mai, il me semble. Oui, c'est ça. Alors si vous êtes d'accord, la séance qui devait être celle d'aujourd'hui sur Heidegger, je la programme l'an prochain, et je finis avec liberté chez lui, ce qui est une circonstance. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Eh ben, merci. Eh ben, non,